RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfand.
Bonjour à tous. Grand reportage nous emmène aujourd'hui en Guadeloupe et en Martinique, deux départements français où 90% de la population est contaminée par un pesticide qui s'appelle le chlordécone. Ce produit a été utilisé sur les bananiers jusqu'en 1993, alors qu'on connaissait sa toxicité pour les humains. Aujourd'hui, il est toujours présent dans les sols et il le sera pour plusieurs siècles car on ne sait pas s'en débarrasser. Chlordécone, le pesticide qui empoisonne les Antilles, c'est un grand reportage d'Agnès Rougy.
Je suis entré dans l'agriculture en 1973. Et depuis 1973, je plantais que la banane. Mais pour le chlordécone, je me rappelle, il y avait quand on plantait de la banane, les charançons et les nématodes se sont propagés. Et alors, il y avait 5 ou 6 boîtes qui vendaient des produits. Ils commandaient des produits en Amérique, en Afrique, pour mettre par rapport aux charançons. Donc, il y a eu le migal, le culone, le thémique. Il y a eu plusieurs, et comme il y avait les représentants de commerce, chaque jour ils passaient près du planteur et ils disaient c'est celui qui est le meilleur, celui-là qui est le meilleur, celui-là qui est le meilleur. Et on voulait faire de l'argent, on l'écoutait pour avoir les plus beaux bananes. Je me suis empoisonné moi-même. Quoi.
Roland Bureau, agriculteur au sud de Basse-Terre, à la Guadeloupe, a 73 ans. Les pesticides qu'il a déversés sur ses plantations pendant des années sont toxiques, en particulier le curlone, qui est l'un des noms de commercialisation du chlordécone, un pesticide organochloré utilisé de 1968 à 1993 en Guadeloupe et en Martinique contre le charançon du bananier. 15 ans après l'arrêt du pesticide, les sols antillais en contiennent toujours et la dernière étude de Santé publique France indique que plus de 90% de la population est contaminée. La saga du chlordécone a débuté en 1958, quand les États-Unis ont commencé à le fabriquer. Mais en 1976, suite à une pollution environnementale importante et à l'intoxication mortelle des ouvriers de l'usine de Hopewell en Virginie, les Américains en interdisent la fabrication et la commercialisation. Et en 1979, le pesticide est classé cancérogène possible pour l'homme. Nous sommes avec Philippe Verdol, maître de conférence à l'Université des Antilles et président de l'association Envie Santé.
Il y a les gros planteurs et les autres. Les gros planteurs sont tous apparentés et c'est une famille de la Martinique, de la Garrigue, qui a racheté le brevet du chlordécone aux États-Unis à l'époque où les États-Unis avaient décidé d'interdire la production aux États-Unis. Ils l'ont racheté et ils ont obtenu des gouvernants français en place. À l'époque, c'était en 72, c'était Chirac qui avait signé la première autorisation. Puis 81, donc ils ont obtenu l'autorisation sous un gouvernement socialiste de reprendre la production et la commercialisation en France du chlordécone. Le nom commercial, c'était Kepon, ce qui était importé des États-Unis. Et quand la nouvelle autorisation a été donnée en 81, c'est devenu le Curlone. Voilà. Donc, ils ont eu l'appui de différents gouvernements pour que ça monte jusqu'en 90. Et ensuite, ils ont fait observer que leur entreprise, elle avait des stocks très importants. Et ils ont obtenu 3 ans pour pouvoir écouler leurs stocks.
D'un côté, il y a les grandes familles de planteurs béquets, descendants des colons blancs, les familles Lagarrigue, Ayotte, qui sont toujours aujourd'hui à la tête de l'économie de la Guadeloupe et de la Martinique. De l'autre, il y a les ouvriers des plantations, premières victimes du chlordécone. Nous sommes à une réunion du syndicat CGT Banane de la Guadeloupe, avec Jean-Marie Nomertin, son secrétaire général.
Ah, c'est atroce et c'est désolant en même temps, parce que nous sommes quasiment les seuls à tirer cette alarme. Depuis 40 ans, nos prédécesseurs, les camarades, se sont battus, toujours battus avec le syndicat pour qu'il y ait de bonnes conditions de travail, et surtout au niveau de l'épandage des produits phytosanitaires, que ce soit les nématicides, pesticides, insecticides et autres. Et le chlordécone fait des ravages, certes, mais avant, il y a eu des produits aussi dangereux comme l'herbicide, le gamoxone, pour ne pas le nommer, qui a effectivement tué pas mal d'ouvriers de la banane. Et le chlordécone, c'est véritablement le summum. Ce summum, on n'en savait pas. Et on effectuait l'épandage sans protection, je dis bien sans protection. Les patrons, avec une seule idée en tête, c'est de faire l'épandage, maximum d'épandage de ce produit, de ce poison, dans des conditions de travail qui étaient véritablement inexistantes.
Pendant toutes ces années, des missions ont été lancées, des avis ont été émis, mais n'ont pas été écoutés. Aujourd'hui, si les Antillais sont massivement contaminés, la terre aussi, et pour longtemps, car le chlordécone est rémanent. Et s'il reste dans la terre, c'est notamment parce qu'il s'agit d'une grosse molécule très difficile à casser. Et la contamination ne disparaîtra pas complètement avant 600 ou 700 ans. Mais comment savoir si l'eau des rivières contient du chlordécone? Nous restons sur Basse-Terre en Guadeloupe, mais cette fois, direction Prise d'eau, au sud de Lamantin, avec un scientifique, Patrick Andrieux.
Tout ça, ça a été déjà bien perturbé par leur dernier cyclone, la Maria.
Oui, il y a plus de pont.
Voilà. Alors, je m'appelle Patrick Andrieux, je suis ingénieur à l'INRA et je travaille sur les transferts de pesticides dans les sols et les eaux en Guadeloupe, donc aux Antilles, depuis 2013.
Ouais. Et donc là, on est à côté d'une rivière sur laquelle vous travaillez justement?
Alors effectivement, on est sur une rivière qui s'appelle la rivière des Pères de Capesterre-Belle, sur un site qui a été équipé par un consortium, BRGM, CIRAD, INRA, IRD. Donc on est sur une rivière qui est cultivée, dont le bassin versant est cultivé à un peu plus de 60% de sa superficie. Voilà.
Donc vous avez plusieurs programmes en cours, et notamment la mesure de ce pesticide chlordécone qu'on peut retrouver dans l'eau, en aval des cultures.
Alors sur deux rivières que nous avons équipées, on a installé un dispositif qui nous permet de suivre la pluie, les débits. On a aussi des équipements qui nous permettent de prélever automatiquement de l'eau dans des flacons qui vont être ensuite préparés et expédiés pour analyse dans un laboratoire en métropole.
En fait, vous analysez plusieurs pesticides, mais voilà, nous on s'intéresse spécifiquement au chlordécone. Et vous, ça fait quand même 3 ans, c'est ça? 3 ans que vous travaillez sur la question et que vous analysez l'eau de cette rivière. Vous avez sûrement une idée de la contamination de cette rivière spécifiquement?
Alors donc, sur ces deux rivières, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Alors on analyse au total plus de 400 à 450 pesticides différents, dont la chlordécone. Donc, actuellement, sur ces deux rivières, on a des concentrations moyennes qui sont de 5 microgrammes par litre sur la rivière des Pères, celle sur laquelle on est, et de 1 microgramme par litre en moyenne sur la rivière Pérou, qui est moins cultivée. Donc c'est normal qu'on ait une concentration un petit peu plus faible.
Alors qu'est-ce que ça représente? Parce que ça se voit pas. Hein. L'eau, là, je dois dire, elle est limpide et très claire.
Alors, il faut que vous sachiez que l'eau destinée à la consommation, l'eau dite potable, ne peut pas contenir plus de 0,1 microgramme par litre d'un pesticide donné, donc quel que soit le pesticide. C'est une norme générale pour l'ensemble des pesticides.
Ces deux rivières ont donc respectivement un taux de chlordécone 50 et 10 fois supérieur à la norme de l'eau potable. Or, les animaux sauvages ou domestiques peuvent la boire librement. Et en aval, on l'utilise pour arroser les cultures maraîchères. Mais quand l'eau est destinée à être bue, peut-on vraiment la décontaminer?
Philippe Verdol, on vient d'arriver là, dans un endroit qui est un peu au bout d'une petite route. On est au pied d'une usine de traitement d'eau potable de Belle Eau Cadeau.
Oui, tout à fait. C'est une unité importante qui est chargée de traiter de l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans cette région-là et de la redistribuer dans plusieurs communes. Mais l'eau qu'elle reçoit, cette eau-là, elle est contaminée. Donc il faut qu'elle soit filtrée avec du charbon actif et que les filtres soient changés régulièrement. Lorsque leur saturation a été détectée. Et on a parfois des soucis de cette nature-là. Le plus récent, c'était sur une autre unité de traitement qui dessert la commune de Gourbert en début d'année. Une saturation des filtres a été détectée. L'ARS a indiqué à la communauté d'agglomération qu'il fallait les changer. Et la communauté, elle a pris 6 semaines pour les changer. Et l'un des arguments qui a été évoqué au journal télévisé, c'est que les filtres coûtent un peu cher quand même. Donc on a délivré pendant 6 semaines de l'eau contaminée à toute la population.
D'après la cartographie des sols contaminés établie par l'INRA et le CIRAD, dans le cadre du 3e plan chlordécone mis en place par l'État, il s'avère que si 10% des sols de la Guadeloupe sont très fortement contaminés, le chlordécone est présent en basse terre avec des concentrations variables dans 36% des analyses effectuées. Ces cartes sont visibles sur le site de la Direction de l'alimentation et de l'agriculture de Guadeloupe. Aux Antilles, le climat tropical amène des cyclones avec de fortes pluies qui lessivent les zones agricoles et toute cette eau finit immanquablement dans la mer, contaminant poissons et crustacés. La pêche est le premier secteur qui a fait l'objet d'interdictions. Olivier Marie-Rennes, président du comité des pêches de la Martinique.
Bon, moi, il me semble que les pêcheurs, on s'est fait couillonner, quoi. Tout début, on ne savait pas quoi faire, on a mis des interdictions de pêche. Mais on n'a pas vu que sur le long terme, que c'était grave, quoi. Les entreprises n'ont pas pu faire face. On a laissé sur le chaos quelques collègues. Et on handicape aussi l'avenir des jeunes qui rentrent, hein, parce que le phénomène est en train de s'amplifier. Chaque année, on nous annonce qu'il y a du chlordécone dans des zones où il n'y avait pas N-E il y a 2 ans. Tout. Donc on handicape fortement l'avenir des jeunes. Il ne nous reste qu'une possibilité, c'est de reporter notre pêche vers le large. Mais ce n'est pas facile, ça coûte beaucoup plus cher et c'est des moyens qui n'ont pas été encore fléchés pour la profession. Aujourd'hui, tout ce qui a été fait pour les pêcheurs, c'est beaucoup de blablabla, mais dans le fond, je pense qu'ils ont été un peu maltraités, quoi. Donc ils se sont un peu moqués de la profession. Ce n'est pas force de ne pas se faire entendre, mais même nos politiques à nous n'ont pas joué le jeu avec nous, quoi. Ils ne nous ont pas aidés. Donc on a été un peu esselés sur la problématique du cours des comptes, des conséquences pour notre profession. Et on le ressent aujourd'hui, c'est une profession qui est à terre à cause du chlordécone.
À partir de 2009, les arrêtés préfectoraux pour limiter ou interdire la pêche se succèdent en Martinique et en Guadeloupe. Depuis qu'on a constaté que les crustacés recelaient des taux très élevés de chlordécone, la pêche à pied est interdite dans plusieurs endroits, mais les arrêtés sont peu respectés. Alors il vaut mieux savoir d'où viennent les langoustes vendues en bord de route. Dans ces départements qui ont le taux de chômage le plus élevé du territoire français, chacun se débrouille comme il peut pour faire manger sa famille. Mais aujourd'hui, les jardins familiaux sont aussi devenus des zones dangereuses. Philippe Verdol, de l'association Envie Santé.
Oui, c'est devenu des zones à risque. Ça a été notamment mis en évidence par le dernier rapport de l'ANSES qui date de décembre 2017 et qui disait que donc, désormais, les œufs étaient un des vecteurs principaux de contamination. Il y avait des chercheurs du CIRAD en Martinique qui avaient mis en évidence que les poules se contaminaient chaque fois qu'elles picoraient un terrain contaminé par le chlordécone. Les jardins familiaux donc concernent très souvent des gens qui ont de très faibles moyens. Et donc, si on leur supprime la possibilité de consommer ce qu'ils plantent eux-mêmes, ils seront donc en difficulté économique pour pouvoir s'alimenter. Donc, lorsque l'ANSES préconise de ne pas développer l'autoproduction, l'autoconsommation, il faut pouvoir fournir à la population des alternatives.
Le sud de Basse-Terre est la zone la plus contaminée de la Guadeloupe. Pourtant, toutes les collines ont été cultivées sans relâche jusqu'à maintenant. Yolande Manza, infirmière scolaire, a grandi et vit toujours dans cette région.
Allez, bon, ce on voit un peu là. Tout ce qui est agrumes, légumes, tout ce que l'on vend, que l'on retrouve sur Pointe-à-Pitre. Alors, lorsque l'on dit que le chlordécone, la Guadeloupe n'est pas tout à fait chlordéconée, elle est parce que ces légumes qui proviennent de ces endroits-là se retrouvent sur le marché de Pointe-à-Pitre. C'est nous qui approvisionnons parce qu'ils n'ont pas de quoi faire tant de cultures. Sous la carte, vous verrez que la partie la plus rouge, c'est cette région de la Basse-Terre. Ici, c'est la canne, la banane, les cristophines, les citrons, les oranges, la laitue, les tomates, les concombres. Tout ça vient de ces endroits-là.
Donc, je suis Yolande Monza, infirmière à l'école maternelle, infirmière territoriale. Je travaille pour le compte du département de la Guadeloupe. Et je fais le bilan de santé des enfants de 3-4 ans dans les écoles maternelles.
C'est-à-dire que vous voyez passer beaucoup d'enfants. Vous connaissez tous les enfants de ce territoire-là autour de la Basse-Terre.
Voilà, moi, mon secteur, c'est sur la commune de Vieux-Habitants et dans une école privée de Basse-Terre.
Le sujet qui nous préoccupe, en fait, c'est l'influence potentielle du chlordécone, ce pesticide très toxique qu'on a utilisé en Guadeloupe et en Martinique bien au-delà de l'interdiction. Plusieurs études l'ont démontré, neurotoxique, c'est-à-dire qu'il a une toxicité sur le système nerveux, en plus d'être un cancérigène. Alors vous, qui êtes au plus près des enfants, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu, parce que 2006, 2018, vous avez eu le temps de voir passer des enfants et de voir peut-être une évolution?
Oui, on peut détecter un trouble de la motricité fine. Voilà. Ils n'arrivent pas à coordonner les gestes pour tenir, faire les 3 doigts le pouce, l'index et le majeur, faire la pince tripode, c'est ce que l'on appelle. Quand on tient un crayon, on tient le crayon avec le pouce, l'index et le majeur, et on appelle ça la pince tripode. Et il y a des enfants qui ne savent pas coordonner les trois doigts pour pouvoir tenir le crayon. Normalement, on sait le faire automatiquement, systématiquement, mais là, ça ne devient plus de l'automatisme, ça devient une grande difficulté pour cet enfant-là.
Et vous avez décelé d'autres troubles ?
Beaucoup de troubles du comportement. Les enfants super agités, qui ne savent pas s'asseoir 5 minutes dans une classe. Dans ma pratique professionnelle, on a eu à voir des enfants avec de gros troubles de comportement comme ça, mais aussi des troubles du langage. Eh mon Dieu.
Merci. Merci. Donc, il a des bises, il sait, il a le cancer de la prostate. Et il n'y a pas très longtemps, le médecin lui a dit, bon, il faudrait que...
Une opération.
Quand le médecin l'a recontacté pour lui dire, bon, maintenant, il faut peut-être passer à l'intervention, il a dit non, qu'il ne veut pas. Définitivement, il ne veut pas. Parce qu'il a 70 ans, il a toujours des érections. Il a dit, il va crever, bon, mais on crève bien de quelque chose.
Quand on perd de la prostate, très souvent, donc, ils sont obligés de couper les muscles érecteurs. Et comme il n'a pas envie de devenir impuissant, donc il préfère garder son truc, il arrive à faire ses affaires.
Ouais, il a dit depuis 2003, bon, il a 73 ans, il est toujours debout. Il a dit qu'il ne va pas dire qu'il n'y a pas de problème à côté, mais il est toujours debout. Et puis c'est surtout que son petit coq, il continue à honorer sa belle.
Philippe Verdol, vous-même, vous avez été touché par ce problème, des gens autour de vous?
Bon, par exemple, mon père est décédé d'un cancer de la prostate. Mon père, il était enseignant, mais jardinier du dimanche parce que fils d'agriculteur. Donc, il a eu l'occasion de répandre pas mal de produits. Le chlordécone, comme d'autres produits, était en vente libre dans les grandes surfaces. Donc, c'était même pas réservé aux professionnels. Chacun pouvait aller s'approvisionner. Lui aussi, il a eu un cancer de la prostate, oui. Mais en Guadeloupe, nous avons tous des connaissances, plusieurs connaissances, qui souffrent ou bien qui sont décédées d'un cancer de la prostate ou d'un cancer du sang, etc. etc. quoi. Il y en a plein.
Et au palmarès du chlordécone, on peut ajouter que la Guadeloupe et la Martinique détiennent le triste record mondial des cancers de la prostate, le premier cancer aux Antilles françaises. Les registres de l'Institut national du cancer dénombrent plus de 300 cas par an sur chacune des îles, et c'est un chiffre qui augmente tous les ans. Au colloque qui s'est tenu en Martinique en octobre 2018, le professeur Blanchet, chef du service d'urologie au CHU de Pointe-à-Pitre, a présenté une étude épidémiologique qui met directement en cause la responsabilité du chlordécone dans cette maladie. Alors, comment s'en sortir ? Didier Roux, de l'Agence régionale de santé, conseille à la population de suivre les recommandations du programme JAFA, consultable sur le site de l'ARS.
La première, c'est analyser la terre qui est dans ces jardins et puis donner un classement de cette terre, un terrain pas du tout pollué, à très pollué. Et en fonction de ça, une aide agricole est fournie. Cette aide agricole, c'est dire vous avez telle concentration de chlordécone dans votre terrain, vous ne pouvez pas cultiver tel type de légumes, étant les légumes racines qui sont les plus sensibles, mais par contre, vous pouvez faire d'autres légumes qui sont des pois, des tomates et d'autres légumes qui sont aériens, faire pousser des bananes aussi. Ils vont vous donner aussi des indications sur les élevages, si vous avez des poulets, ne pas les mettre sur sol. Par contre, de faire des poulaillers surélevés ou isolés du sol, et puis faire prendre des précautions aussi quand il s'agit d'abreuver ces volailles, de ne pas utiliser de l'eau contaminée. Voilà.
Les recommandations de l'ARS sont donc de cultiver autrement et de ne pas manger la nourriture contaminée. Mais encore faut-il en avoir les moyens, et ça ne résout pas le problème. Du côté scientifique, le chlordécone est une molécule compliquée et aucune solution de décontamination des sols à grande échelle n'a encore été découverte. Le plan chlordécone 3, mis en place par l'État français, s'achèvera en 2020 et le colloque à mi-parcours qui s'est tenu à Fort-de-France en octobre 2018 a peut-être montré une volonté de transparence. Mais en réalité, ni l'État ni les planteurs ne sont prêts, 30 ans après, à dédommager les victimes de ce poison. Le chlordécone, le pesticide qui empoisonne les Antilles. Un grand reportage d'Agnès Rougier, réalisé par Pierre Chaffangeon.